Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Nous allons nous les remémorer. Alors là, nous allons voir les deux dons spirituels qui sont peut-être les moins couramment exercés dans notre Église. Ce ne sont pas des églises en général, mais dans notre Église. Donc, je pourrais dire dans les églises en général. Vous allez comprendre pourquoi. 1 Corinthiens chapitre 12. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, verset 8, pardon. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses sortes de langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Ça, je l'aime bien, la fin de cette phrase. En distribuant à chacun, comme il veut. Hein. C'est l'esprit de Dieu qui les distribue. C'est pas nous qui choisissons, hein, quel don spirituel nous allons exercer, mais c'est le Saint-Esprit qui les donne, selon sa volonté, parce que nous savons que l'esprit de Dieu est une personne, et qu'à ce titre-là, il a une volonté propre, alors il ne la donne pas en fonction des mérites, il ne la donne pas en fonction de qui nous sommes, mais il la donne en fonction de sa volonté. C'est lui qui désire, et nous, la chose que nous avons à faire, c'est d'aspirer aux dons spirituels, de les désirer d'une manière forte et réelle. Lorsque l'on regarde les 9 dons spirituels que nous venons de citer, on s'aperçoit que 7 ont été exercés durant le ministère de Jésus ou par les apôtres. Mais que les 2 dons spirituels qui nous restent à savoir le don des langues et l'interprétation des langues, n'ont pas été interprétés par Jésus, n'ont pas été exercés par Jésus. Et ils ont été véritablement donnés à l'Église. C'est des cadeaux que le Saint-Esprit a donnés à l'Église, a donnés pour l'Église. Le don de l'interprétation et le don des langues ne peuvent s'exercer que dans le cadre de l'Église. C'est évident. On fera la distinction, bien sûr, et il faudra switcher dans votre intellect entre le don des langues et le parler des langues, qui sont 2 choses distinctes. Donc le don d'interprétation et le don de langue ne peuvent s'exercer que dans le cadre de l'Église, alors que les autres, et j'ai insisté lourdement là-dessus, peuvent s'exercer en dehors de l'Église. Dans les entretiens que je peux avoir avec vous, il m'est arrivé d'exercer des dons spirituels. De la même manière, vous pouvez exercer des dons spirituels en parlant à quelqu'un, en parlant à un frère, à une sœur ou à un collègue de travail. Les dons spirituels, les 7 autres dons spirituels ne sont pas réservés à l'Église, mais le don d'interprétation, le don des langues, oui, imaginez-vous que vous soyez en train de parler en langue au travail et que vous l'interprétiez. Je ne sais pas si ce serait extrêmement vendeur, entre guillemets, pour le témoignage. Hein. Je crois même que ce serait contre-productif. Quoique, hein, l'Esprit de Dieu peut servir de ces choses-là, mais bon, mieux vaut être raisonnable dans ce domaine-là. Donc, dans un premier temps, je vous propose d'aborder le parler en langue dans sa globalité. La première chose, c'est que c'est une promesse de Jésus. Marc, chapitre 16, verset 17, « Ils parleront de nouvelles langues. » Ce n'est pas un homme qui l'a décidé, qui l'a dit, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, mais c'est une promesse que Jésus va faire à ses disciples lorsqu'il va être enlevé, et c'est une promesse qu'il fera même avant d'être enlevé. Et donc, on peut serrer cela sur notre cœur en disant, c'est pour chaque homme et chaque femme les nouveaux qui le désirent. Quelle est la définition du parler en langue? Le parler en langue est une expression surnaturelle, j'insiste sur le mot important, surnaturelle, par le Saint-Esprit, dans une langue que celui qui parle ne parle jamais. Si je parle en langue en français, ça n'aura pas forcément de valeur. Il ne l'a jamais apprise. Il ne la comprend pas. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est un miracle vocal. Donc, lorsque je parle en langue, je vis un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui vient de mon imagination. Ce n'est pas quelque chose qui vient de moi-même. Mais c'est un cadeau que le Saint-Esprit m'a fait. Je vis le miracle de Dieu. Au même titre que lorsque je vois un boiteux marcher ou un aveugle voir, eh bien, lorsque je parle en langue, je vis un miracle. C'est, je parle des, Ce que je dis est cohérent. Ce que je dis est compréhensible par Dieu et peut même l'être par des gens qui sont dans l'auditoire. Ça, c'est encore plus extraordinaire. Nous verrons quelques témoignages. C'est une promesse qui a été annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 28, versets 11 et 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lettres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ça se colle bien pour parler en langue. Déjà, le prophète Ésaïe annonçait que, eh bien, l'évangile sera annoncé au travers de langages inconnus. Le but du parler en langue dans notre vie personnelle. Le parler en langue, c'est certes un signe, mais c'est plus qu'un signe. C'est un moyen. Vous savez, on peut vivre le baptême dans le Saint-Esprit de la manière suivante, en disant, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, c'est terminé, c'est bon, je suis labellisé, je suis pentecôtiste, c'est génial, on arrêtera de m'embêter avec ça. D'ailleurs, quand on a cette mentalité-là, on ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, c'est assez compliqué. Mais c'est une mentalité qui peut venir par la suite en disant, voilà, je parle en langue, ça me suffit, c'est un signe. Hein, c'est le signe. Et effectivement, la parole de Dieu nous indique que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. C'est le fait de parler une langue que l'on ne connaît pas. On le voit notamment lorsque l'apôtre Paul va aller à Éphèse et qu'il va rencontrer les disciples de Jean. Hein, il va leur demander, êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu dire qu'il y ait un baptême dans le Saint-Esprit. Hein. Et là, l'apôtre Paul va les enseigner, il va leur imposer les mains, et ils étaient aux environs de 10. Aux environs de 10. Et là, ils vont parler de nouvelles langues. Il va se passer la même chose en Samarie, parce que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vont descendre pour enseigner ce que l'évangéliste Philippe avait amené à la foi. Là, le signe initial du baptême en Saint-Esprit reste et demeure le parler en langue. C'est la preuve scripturaire que l'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas la preuve que nous sommes sauvés. Bien sûr, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il est nécessaire d'être sauvé. Mais la réciproque n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit que je ne suis pas sauvé. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit « J'aimerais bien prendre le baptême. » Je suis une bonne nouvelle. Moi, pourquoi ? Ben, voilà, je ne peux pas le prendre. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ah. Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre le baptême sans être baptisé dans le Saint-Esprit ? Eh bien, parce que je ne suis pas sauvé. Parce que je ne suis pas sauvé. C'est toujours important, je vous le dis souvent, mais c'est à enseigner autour de vous, hein, que la conversion et le baptême en Saint-Esprit sont deux expériences qui sont bien distinctes. Ne pas être baptisé en Saint-Esprit, ce n'est pas être un chrétien. On a toujours la même valeur au Dieu de Dieu, et on a toujours la même valeur au Dieu de nous tout seul. Ne pas être baptisé en Saint-Esprit, ce n'est pas être moins que rien. Ce n'est pas que l'on est participé. C'est tout simplement qu'on a une expérience à faire. Et comme ceux qui sont maintenant dans le Saint-Esprit ont parfois des expériences qui ne restent à faire. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, mais il mérite d'être développé et d'être connu. Et donc, le parler en langue est plus qu'un signe. C'est un moyen. C'est un moyen, premièrement, pour obtenir une vie qui était personnelle, efficace et vivante. Lorsque je prie mon Dieu actuellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, on hésite un coup. On hésite un coup. On sent toute notre limite. Et on sent sur notre cœur qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais on ne les connaît pas, ou alors on n'arrive pas à les exprimer, on n'arrive pas à les sortir, on n'arrive pas à les enlever de notre être intérieur. Et c'est là que, eh bien, le parler en langue prend toute sa dimension. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit le mystère. Et lorsque je parle en langue, je prie mon Dieu d'une manière parfaite. J'aime beaucoup ce texte de l'Épître aux Romains qui dit que, ben, on prie Dieu selon son cœur. Le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu et nous retransmet le cœur de Dieu. Et de ce fait, on prie Dieu de manière parfaite. Lorsque mes mots sont trop courts, lorsque nos mots sont trop courts, eh bien, nous pouvons trouver le recours. Eh bien, on parlait en langue afin de donner une autre dimension à notre vie de prière. Afin de donner un volume différent, de donner une inspiration différente à notre vie de prière. Et que véritablement, il puisse y avoir, eh bien, cette piété, cette relation avec Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, bon, aujourd'hui, tu vas prier pour Sylvie. Aujourd'hui, tu vas prier pour Myriam. Aujourd'hui, tu vas prier pour Bruno. Mais sans qu'on sache. On s'en fiche de savoir pour qui on prie. Le tout, c'est qu'on fasse. Le tout, c'est qu'on fasse. Et c'est ça qui est important. Et lorsque je me tiens devant le Seigneur et que on se tient devant le Seigneur en parlant de mon Seigneur, inspire-moi dans mes prières. Inspire-moi dans mes prières. On est en intercession et puis, comment on se fait avant? Bien dans notre cœur, on sait qu'on prie, c'est parfaitement. Et que peut-être on est en train de prier pour, un missionnaire à l'autre bout de la terre, peut-être qu'on est en train de prier pour notre frère qui est à côté, mais qui est en souffrance, etc. Et la communion fraternelle trouve un relief dans cette notion de parler en langue personnelle. Il en va de même pour la louange. Lorsque nos mots sont parfois bien trop courts pour louer Dieu. Comment voulez-vous que des simples bipèdes comme nous, puissions louer Dieu et connaître Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa dimension? C'est infernal. On ne peut pas sonder dans le cœur de Dieu. Nos mots sont trop courts. Nos mots sont trop courts. Mais rassurez-vous, un je t'aime, ça lui suffit. Un je t'aime dit du fond du cœur, ça donne un grand sourire à Jésus. Ça donne un grand sourire à Jésus. Et c'est le même principe. Lorsque je loue Dieu en langue, il se passe quelque chose dans mon cœur. Et je loue Dieu d'une manière parfaite. Frères et sœurs, c'est plus que des mots. C'est une manière de vivre en langue. Parler en langue n'est pas un automatisme. C'est pas quelque chose que l'on fait parce que c'est 7h15, que voilà, c'est le moment dans notre culte personnel où on le fait. Parler en langue dans notre vie personnelle, dans notre édification personnelle, n'est pas quelque chose qui doit perdre de sa saveur, qui doit devenir une habitude. Au contraire, nous devons le vivre comme étant toujours et constamment renouvelé, en ayant conscience de ce que nous vivons, un miracle, et en ayant conscience de ce que nous faisons, une adoration et une prière qui est parfaite. Alors, il peut s'exercer sous différentes formes, il peut s'exercer par le chant également. C'est quelque chose qui peut se produire, et l'interprétation est dans le chant. Je me souviens d'une expérience que me donnait papa, c'est lors d'une convention. Il y a eu un parler en langue qui était chanté. Et toute l'église, toute la convention, c'est moins nombreux que nous, a repris ce parler en langue dans le même langage et dans la même tonalité. C'était remarquable. Et là, une sœur, femme, à l'époque, ça devait être chrétienne, a interprété ce avec la même mélodie, la même tonalité. C'était tout à fait grandiose. Tout à fait, c'est quelque chose qui l'avait profondément marqué. C'est un mouvement qui souffle de l'esprit. Quelque chose qui ne peut pas se créer humainement. Mais il y a vécu là un miracle. Donc, on peut vivre par là, sous toutes ses formes. Et je pense que l'Église, on en a besoin dans notre édification personnelle. Et, deuxième raison pour laquelle il est utile, c'est que c'est un moyen d'édification personnelle. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, c'est pourquoi Paul le pratiquait beaucoup. Il dira, je parle en langue plus que vous tous. Lorsque je parle en langue, eh bien, il y a une édification qui se passe à moi, ça affermit ma foi, ça affermit ce que l'on est. Ma foi est fortifiée dans ce temps où nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous et au travers de nous. Ceux qui sont maintenant dans cet esprit, c'est extraordinaire d'être assis dans son fauteuil, dans sa chaise, et puis tout simplement, parler en langue gentiment, tranquillement, comme un fleuve qui coule du cœur. Et puis, c'est comme si là, il y avait la main du Seigneur qui caressait notre cœur, gentiment, qui prenait le temps de qui prenait nos fardeaux, c'est comme si notre cœur se déversait. Et c'est tout simplement extraordinaire. Et là, ça fortifie ce que l'on est, ça fortifie notre foi, et on ressort de ces temps avec quelque chose de plus dans notre cœur. Le courage, l'assurance grandit. Regardez les actes des apôtres. Lorsque les disciples vont passer devant le Sanhédrin, on va leur demander, mais c'est bien raisonnable ce que vous faites? Et Pierre va répondre, qu'est-ce qu'il vaut? Et qu'est-ce qu'il vaut mieux? Obéir aux hommes ou à Dieu? Puis là, ils vont avoir peur, on va leur interdire de continuer à annoncer l'évangile, ils vont être relâchés. Et comment est-ce que le Seigneur va les renouveler? Il va leur faire revivre une seconde rencontre. Une seconde rencontre. À nouveau, le lieu dans lequel ils étaient va être visité par Saint-Esprit. Et ils vont revivre les choses, et l'évangile va continuer à avancer. Les hommes ont eu besoin de ça. Et lorsque nous parlons en langue dans notre culte personnel, même lorsque nous entendons nos frères et sœurs en langue, c'est bien que cela puisse fortifier notre foi, que cela puisse faire du bien à notre cœur. Nous ne prions pas de ceux et de celles qui vivent ces choses-là comme des choses un peu particulières, mais que nous puissions l'avoir cela. Le premier baptême dans cet esprit que vous avez mis dans l'église, je pense que nous en souffrons. une sœur, c'est l'une de mes premières visites. C'est une sœur qui vient me voir et qui me dit, ma sœur, je peux vous parler. Elle s'assoit en face de moi, elle regarde avec les yeux noirs. Donc elle me dit, ce que je vais vous dire ne va pas me plaire. Ça va pas vous plaire. Bon, je lui dis, mais pourquoi? Je pense que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un délire collectif. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, je explique un petit peu son parcours. On prend les textes. On prend les textes, les uns après les autres. Et puis, je lui dis, Seigneur, demande au Seigneur. Comment je fais? Rentrer dans votre chambre. Puis, prier. Je verrai ce qui va se passer. Je verrai que le Seigneur respectera parce qu'il m'a dit. Là, ma mère dit, bon, d'accord. Je vais rentrer chez eux, je fais une nouvelle. Et 15 jours après, la sortie du culte, je vous avais content. Je dis, pourquoi? Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ah, je dis, vous voyez, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est plus un délire collectif. Je dis, non, c'est plus un délire collectif. Vous voyez, comme quoi, le Saint-Esprit respectera toujours ce que l'on dit. Même dans l'exercice du parler en langue. Ça, il ne faut pas que nous disions. Et cette sœur dira que c'est un moyen pour elle extraordinaire de fortifier sa foi. Hein, que le Seigneur puisse vous aider. Et c'est un moyen d'édification également, et bien pour l'Église, hein, puisque on sait que les dons spirituels se sont donnés à l'Église, et qu'à partir du moment où le parler en langue est exercé à voix haute, de manière audible, hein, donc c'est là que le don des langues s'exerce. Le parler en langue est dans le cadre d'une réunion, exprimé de manière tout à fait décente, on n'a pas à se sur notre chaise, on n'a pas à hurler, hein. Mais par contre, lorsque l'on veut exercer le don des langues, eh bien là, eh bien le volume monte, mais là aussi c'est fait, on verra dans la discipline du don spirituel, c'est fait de manière tout à fait décente et tout à fait correcte. Et à partir du moment où le don spirituel est interprété, eh bien il a vocation à édifier l'Église, nous verrons dans le passage sur le don d'interprétation. D'accord? Donc, on n'oublie pas que les dons spirituels ont pour vocation d'édifier, de construire. Et lorsque l'on les exerce, on se met au service de la communauté, au service de l'Église et au service de notre Dieu. Alors, second point, le contrôle du don. On est entre adultes. Hein, on a vécu, on sait que dans ce genre de domaine, il peut y avoir des excès, il peut y avoir des choses qui vont parfois choquer. Et du coup, eh bien, c'est la fameuse technique du balancier, vous savez, on repart dans l'autre sens. Il y a plus qu'il y a des excès, on éradique tout, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et donc, la parole de Dieu nous enseigne un petit peu sur la manière de contrôler le don. Premièrement, l'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est ce que dira l'apôtre Paul. Il s'agit d'être maître de soi-même. Ce n'est pas un délire supprimant l'usage de la raison, hein. On peut s'arrêter quand on veut, que ce soit lorsqu'on est baptisé dans cette unité. Quand on exerce un don spirituel, je parle en langue personnelle, ou quand on exerce un don spirituel dans l'Église. L'esprit du prophète est soumis au prophète. On peut s'arrêter quand on veut, ce qui veut dire qu'on reste lucide, ce qui veut dire qu'on reste conscient, ce qui veut dire qu'on a conscience de la notion de temps, pas comme les prédicateurs. On a conscience de la notion de temps. On sait qu'un don spirituel ne doit pas durer 25 minutes. On sait qu'un don spirituel ne doit pas durer 3 quarts d'heure. On sait qu'il ne doit pas choquer. Il doit être fait dans l'amour, dans le respect d'autrui. Ça, c'est une base qui paraît importante. Deuxièmement, je l'évoquais, ne pas choquer l'auditoire dans du don spirituel. En sautant, en hurlant, il y a eu une doctrine démoniaque, ténébreuse, qui s'appelait Toronto, hein, où les gens se mettaient à aboyer, à hurler, à imiter les chats, etc. C'était du n'importe quoi. Un don spirituel doit être exercé dans l'identité de l'Église. Dans l'identité de l'Église, peut être exercée dans notre propre personnalité, selon notre propre personnalité, et toujours dans le respect de ce qui est en train de se faire. Le jour où vous exercerez un don spirituel alors que vous serez en train de prêcher, ne vous inquiétez pas, vous verrez bien que ça colle pas. Hein. Donc, dans le moment du culte, dans le moment où il y a une cohérence, l'Esprit de Dieu ne travaille pas n'importe comment. D'accord? Donc, lorsqu'on les exerce, on a toujours vocation à ne pas choquer. C'est pour cela qu'ils doivent être exercés dans l'amour, de manière à ne pas être brutaux, et notamment le don de parler en langue doit être tout à fait contenu. Mais pour autant, il est nécessaire de ne pas empêcher de parler en langue. Hein, le critère sera toujours celui d'édification. Il est nécessaire que nous soyons et que nous demeurions de vivre la parole. D'accord? Nous sommes des pentecôtistes. Nous vivons la Saint-Esprit, nous voulons la vivre encore plus. Et ce n'est pas parce que, pour une raison ou pour une autre, nous avons pu être choqués, je comprends tout à fait, que, eh bien, on veut fuir les choses de Dieu. On veut rester ancré sur la parole, et la parole de Dieu nous dit que ces choses sont bibliques. Et de ce fait, eh bien, nous voulons les vivre pleinement. Autre point, la pérennité du don. Donc, ce sera le troisième point. La pérennité du don. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8 à 10. Lorsque la perfection sera venue, pas avant, 1 Corinthiens, pardon, je ne vais pas noter de passer. J'ai une erreur de copier-coller. 1 Corinthiens, chapitre 13. Verset 13. Verset, Verset 8 à 10 ans. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Dans ce texte-là, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est que on voit que lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est quoi, selon vous?
C'est l'enlèvement de l'Église.
D'accord? Donc, lors de l'enlèvement de l'Église, eh bien, les premiers dons spirituels disparaîtront. Ça sera, puisque l'Esprit sera enlevé avec les pouces, hein, les dons spirituels disparaîtront. Lorsque ce qui sera parfait sera venu, alors, eh bien, ces choses-là ne seront plus, la foi disparaîtra également, l'espérance aussi. La seule chose qui demeurera, c'est l'amour, conclut l'apôtre Paul dans ce chapitre 13. Donc, la première chose que l'on retient, c'est que, il y a une réponse aux objections qui disent que le parler en langue n'était que pour les gens du premier siècle, que pour les disciples du premier siècle. Puisque c'est certaines dénominations évangéliques baptistes qui le disent, qui pensent que le parler en langue n'était valable uniquement pour fonder l'Église et uniquement pour les premiers disciples, et qu'après les langues se sont éteintes. Mais l'apôtre Paul, ici, il dit une chose qui est une chose complètement différente. Il explique que les langues, le don des langues, la prophétie, les dons spirituels ne s'éteindront que lorsque ce qui sera parfait, ce qui est parfait, sera venu, c'est-à-dire qu'au moment où l'Église sera enlevée. Jusqu'à présent, l'Église est encore là. Donc, les dons spirituels restent et demeurent valables. Le parler en langue reste et demeure valable. Ce texte rend caduque cette doctrine qui est née, justement, d'excès et d'une volonté d'aplanir les choses. La deuxième chose, c'est que ce texte nous montre également que les dons spirituels peuvent disparaître. Et la vie de l'esprit peut disparaître. Et ça, nous pouvons le vivre, nous pouvons l'avoir vécu. En passant le temps, j'ai pu le vivre dans ma vie personnelle, où j'ai perdu, ce parler en langue, où j'ai perdu cette capacité d'exercer les dons spirituels. Alors, tout simplement parce que, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est une cause de laxisme. Étant donné que ces choses-là nous sont données par Dieu, à partir du moment où je ne cultive plus ma relation avec Dieu, je ne peux plus les donner. C'est comme si vous n'avez plus au boucher, le boucher a beau être tout à fait d'accord pour vous vendre de la viande, si vous n'y allez plus, il ne peut pas vous la vendre. Si on ne s'approche pas de Dieu, il ne veut pas nous communiquer ses miracles spirituels. Et c'est comme ça que finalement les choses se ternissent, que finalement les choses s'amoindrissent, et qu'on perd cette vie de l'esprit qui est si importante pour notre relation avec Dieu et pour notre vie spirituelle. Deuxièmement, et c'est assez vrai pour ceux qui sont baptisés dans cet esprit depuis peu, pour ceux qui viennent juste être baptisés dans cet esprit. D'un coup, un doute vient en se disant, mais c'est du n'importe quoi. C'est pas un délire collectif, mais c'est un délire individuel. Le diable vient dans le cœur, là, et puis il met tout d'un coup cette pensée de dire, mais non, on peut pas baptiser dans cet esprit, c'est pas possible. Et tout d'un coup, il y a un blocage qui se fait. Il y a quelque chose qui est cassé, et il n'y a plus la foi, il n'y a plus la capacité à rebondir. Mais si, à partir du moment où nous allons parler en une seule fois, bien, nous avons vocation à le cultiver et puis à manifester ce même acte. Troisième chose qui peut finalement éteindre la flamme, c'est un péché qui vient gangréner notre foi. À partir du moment où je ne vis pas une vie pure et sainte, il est compliqué pour moi d'exercer et de vivre la vie de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui paraît évident. Et c'est un bon baromètre dans notre vie. Est-ce que nous parlons encore en langue, ou au moins aussi souvent qu'auparavant? Est-ce que nous exerçons les dons spirituels si souvent ou si fréquemment qu'auparavant? Bref, là, il y a un baromètre qui est intéressant pour nous qui sommes baptisés en Saint-Esprit. Hein, c'est ce que j'appelle veiller sur le niveau de vie. Ça correspond à ça. Et quatrième chose qui peut finalement faire que notre vie spirituelle décline, et ça c'est extrêmement empirique, mais c'est un changement de cadre. C'est étrange, mais à partir du moment où on change d'église, ou alors où pour une raison ou pour une autre, le cadre dans lequel nous sentions en sécurité change, est bouleversé, eh bien nous avons du mal à retrouver notre vie d'esprit. C'est quelque chose que j'ai pu voir en tant que pasteur, assez fréquemment, et vivre même parfois dans mon quotidien. Hein. C'est quelque chose qui est très vrai. Donc, méfions-nous. Hein, lorsque le cadre change, de toujours bien veiller sur notre niveau d'huile. Donc, bien compris, le don de parler en langue, j'étais clair? Ok? On passe à l'interprétation, ce sera plus court. Mais attendez, il y a un truc que j'ai oublié. Qui est vachement important quand même. La définition du don de langue. C'est vachement important. J'ai un peu zappé. La définition, c'est la capacité de parler à Dieu dans plusieurs langues non connues de celui qui parle, mais qui peut être comprise par d'autres auditeurs, locuteurs des langues, et ou qui sont destinés à être interprétés pour l'édification commune par l'intermédiaire d'un autre don appelé l'interprétation des langues. Ces langues diverses correspondent à un véritable langage humain. Dans cette définition, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est un véritable langage que l'on parle. Donc, aucun mot n'est sans sens. Tous les mots que l'on peut prononcer ont un sens. Deuxièmement, il se peut que l'interprétation et le parler en langue soient de taille différente. Pour quelle raison? Parce que ceux qui ont fait de l'allemand par exemple, hein, est beaucoup plus long en termes de phrasé que ne peut l'être le français. Pour dire, je veux avoir en allemand, il faut au moins 15 mots. Hein. Encore, ils sont beaucoup plus longs. Et moi, je comprends plus rien. Hein. Mais en français, c'est beaucoup plus court. Donc, il faut pas se heurter à cette difficulté. Il faut pas se heurter à cette difficulté. Hein. D'accord. Mais ce qui est important, c'est que on parle réellement une langue qui peut être comprise. Langue des hommes ou langue des anges. Une simple expérience. Dans une église que j'ai bien connue, un jour, il y a un professeur d'italien qui rentre, un converti. Et puis, il rentre dans cette église-là, il accompagne sa femme pour la première fois. Puis là, il y a eu un don spirituel en italien. C'était exercé par un maçon du coin, j'ai jamais parlé italien de sa vie. Et puis, dans ce don spirituel, il louait Dieu, mais d'une manière extraordinaire. À tel point que le professeur d'italien a été touché dans son cœur. Et puis, il a dit, mais c'est pas possible. C'est extraordinaire ce que dit cet homme. Et il est allé voir le pasteur, il a dit, est-ce que je pourrais aller voir ce compatriote, enfin du moins, cet homme qui parle italien? Le pasteur qui ne parlait pas italien, pour son système de père, en l'occurrence, hein, est allé voir, si, il y a quelqu'un qui a parlé italien, je vous assure. Ah bon, ben, si, à tel moment. D'accord, allez-y. Et puis, moi, je ne vais pas parler italien. Et là, ensuite, le pasteur a expliqué les choses. Cet homme s'est converti. Donc, on voit là les deux acteurs. Le premier, qui ne parlait pas un mot d'italien. Le deuxième, qui lui comprenait l'italien, hein, et qui a réussi à traduire, hein, sans aucun problème. C'est une expérience tout à fait extraordinaire qui s'est produite dans bien des églises. Donc, la vocation du don de langue, c'est d'être interprété. S'il n'est pas interprété, l'apôtre Paul dit qu'il ne sert à rien. S'il est fait publiquement, s'il vaut une montre, comme je disais tout à l'heure, et qu'il n'est pas interprété, ça ne sert à rien. Il a vocation à être interprété. Alors, c'est quoi la définition de l'interprétation? Ça va? Vous tenez le coup encore? Sûr? Bon, ça marche alors. L'interprétation des langues est inspiration du Saint-Esprit. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune caractéristique humaine permettant à un chrétien d'exprimer clairement dans la langue habituellement parlée, donc en français pour nous, par les auditeurs la signification des paroles prononcées dans un parler en langue. C'est un miracle de Dieu, je réinsiste là-dessus, car celui qui interprète ne connaît absolument pas la langue qu'il entend. Si je parle en langue en allemand et que Maïné interprète, hein, bon, ça sera un miracle que je parle allemand. Hein. Enfin, surtout, ce sera vraiment un miracle. Hein. Mais que Maïné comprenne et interprète ce que je dis, ça ne sera, ça n'aura aucune valeur. Ça n'aura aucune valeur. Du moins, son interprétation. En parlant en langue, c'est différent. Hein. Cette interprétation n'est pas forcément du mot à mot. Donc, on insiste bien là-dessus. N'est pas forcément du mot à mot. Mais la restitution fidèle de la pensée contenue dans le parler en langue. Cela fait que parfois l'interprétation peut être plus longue ou plus courte que le parler en langue. D'accord? Donc, c'est la pensée qui est retraduite, hein, de manière claire, même si tous les mots ont leur importance et donnent du sens. Alors, maintenant, un point où je vous dis de manière assez claire, qui paraît intéressant, même s'il n'est pas souvent abordé. Vous avez remarqué que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, lorsque les 120 vont parler en langue, ils vont être compris par les Juifs qui vont être remontés des différentes contrées et ils vont comprendre ce que les 120 disaient. Et quand ils compris, ils vont dire, ils louent les merveilles de Dieu, ils proclament les merveilles de Dieu. Donc, le parler en langue a vocation à proclamer les merveilles de Dieu. Or, moi je pèse mes mots, je marche un peu sur des œufs, vous aurez le droit de pas être d'accord avec moi. Or, pour ceux qui fréquentent des églises depuis quelque temps, lorsque dans les églises il y a un parler en langue, qu'est-ce qui suit dans 90% des cas? Une prophétie. Qui n'a pas forcément vocation à louer les merveilles de Dieu, mais à exhorter, à consoler, à édifier, qui est mêlé de paroles de connaissance et de paroles de sagesse. Ce qui ne veut pas dire que la prophétie n'est pas inspirée, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais dire que le parler en langue, dans ce cas-là, fonctionne un petit peu comme un Pavlov. C'est ce que c'est qu'un Pavlov? Vous donnez un sucre à un chien, il vous donne la pâte. D'accord? Vous le laissez comme ça, à chaque fois que vous lui donnez un sucre, il vous prend la patte, donc le chien vous donne un sucre, il vous tendra toujours la patte. Eh bien, pour certains, le fait qu'il y ait un parlant, ça aide à débloquer une pensée qu'on peut avoir sur le cœur. Donc, elle est fondée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, ce n'est pas l'interprétation qui est donnée. Puisque le parler en langue, le don des langues, a vocation à louer la personne de Dieu, à bénir la personne de Dieu et à proclamer la personne de Dieu. Donc, c'est un don qui est nécessaire, eh bien, de rechercher, hein, afin de le vivre pleinement et de donner une édification supplémentaire à l'Église. D'ailleurs, dans notre livre, les deux sont à rechercher. Parce que aucun des deux n'est exercé, donc que le Seigneur puisse, eh bien, nous donner de les exercer et du moins de commencer à y aspirer. Ça va, j'ai été bien clair là-dessus? Parce que, je rajouterais que le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, est différent du don d'interprétation. C'est des dons qui sont bien distincts des dons. Donc, de ce fait, ils doivent avoir leur part entière dans l'église. Le but principal du don d'interprétation est d'édifier l'église. On renvoie au texte 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. D'où l'importance de prier pour recevoir ce don et s'attendre à le recevoir. D'accord? En conclusion, sur ce chapitre des dons spirituels, c'est fini. En conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est pour tous. C'est que la vie de l'esprit, c'est pour tous. C'est pas réservé. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans d'incarnation. Il n'y a pas besoin de faire partie du conseil d'administration. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il suffit juste d'avoir une vie qui soit en règle avec le Seigneur. Et de rentrer dans cette démarche de foi. Le Seigneur. Eh bien, je veux te servir. Je veux participer à ton œuvre. Je veux avancer avec toi. Alors, Seigneur, donne-moi de rentrer. Tu gommeras mes erreurs. Tu gommeras mes erreurs de langage. Tu gommeras la difficulté peut-être en entendant ta voix. Tu gommeras tout cela, mon Dieu. Si je veux.
La vie de l'esprit est le premier sens dans notre cœur, dans le désir que nous avons de servir l'œuvre de Dieu, de servir le maître, et de faire partie à part entière. Elle a un travail qui veut faire sur cette terre, qui veut faire au sein du Seigneur, qui veut faire autour de lui. Et rien de plus, rien de moins, qu'une volonté forte de notre part, de recevoir les choses, au-delà de tous nos raisonnements, au-delà de tout notre peur, au-delà de tout notre vécu, au-delà de tout ce que nous sommes, au-delà de tout ce qui peut nous décevoir, au-delà de toutes choses, eh bien, la foi et la volonté de servir passent au-dessus. Et nous pouvons surmonter et rentrer dans cette dimension de la vie d'esprit, dans laquelle l'évangélisation peut avancer, ou alors là, avancera faiblement, et dans laquelle notre vie spirituelle, eh bien, nous manquera toujours. Voilà, la prière, c'est que dans l'Église, les noms dont sont prêts, soient exercés. Mais ma seconde prière, c'est qu'ils soient exercés par toujours des personnes différentes. Toujours des personnes différentes. C'est ainsi que ce doit être, je pense. Personne ne doit être dépositaire d'un don, mais nous avons tous la possibilité, parce que nous sommes tous aimés du Seigneur, de les exercer à nos moments. Le Seigneur nous aide. Et qu'il nous fasse bien. Amen.